Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. 4 ans après, Sandra Scanella est de retour pour nous raconter la suite de son histoire. Et quelle histoire ! Après la naissance de son fils, Sandra a très envie d'un deuxième bébé. Elle veut créer une fratrie, une famille, ce schéma qu'elle vit avec sa sœur et qui apporte tellement à sa vie. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Vraiment pas. Sandra tombe enceinte rapidement, mais malheureusement, cette grossesse s'arrête spontanément. Une fois, puis une deuxième fois. Alors quand la quatrième grossesse s'installe, il est impossible pour Sandra de connecter avec ce petit bébé qui, cette fois, va s'accrocher. Elle a peur qu'encore une fois, on lui enlève ce bonheur. Pourtant, Paloma arrive comme un boulet de canon et en pleine forme. Une vraie boule d'amour. Mais le schéma familial que Sandra avait tant imaginé ne s'est jamais réalisé. Quelque temps après l'arrivée de sa fille, elle se sépare du papa de ses enfants. La suite, je te laisse la découvrir dans cet épisode. Tu penses être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Sandra.
Salut Élise.
Bienvenue sur Prenons un café.
Merci.
Après 4 ans, tu as été ma deuxième invitée. Mm. À l'époque, je n'avais aucune notion en son, aucune notion en interview et tu m'as fait confiance. Tu es aussi la première personne à m'avoir mis un micro devant la bouche, donc merci encore pour ça. Je suis ravie, moi, de te retrouver.
L'élève a dépassé le maître.
Écoutez, qu'est-ce que je vous dise. j'ai découvert une passion, ouais. Voilà. Ouais. Et, mais je suis ravie, en tout cas, de te retrouver 4 ans après pour parler de la suite. Tu fais partie de cette petite capsule de que sont-ils et que sont-elles devenues. On va parler de toi, de ta maternité. Quand on a échangé la première fois, tu étais une toute jeune maman. Andréa, ton fils avait 3 mois. Mm. Donc c'était tout nouveau. Mm-mm. Aujourd'hui, il a donc 4 ans et 3 mois, ouais. À peu près, et tu es maman de 2 enfants. La première question que je vais te poser, je ne vais pas la faire traditionnelle, parce qu'on a déjà une partie de l'histoire, donc voilà, on va vraiment partir de la suite. Est-ce que toi, tu as toujours imaginé que tu aurais plusieurs enfants ?
Oui.
J'ai oublié de te dire de te présenter.
Oui.
Ouais, parce qu'en fait, il y a peut-être des gens qui n'ont pas écouté cet épisode.
Tout à fait, c'est absolument moi qui je suis.
Qui es-tu ?
Du coup, je m'appelle Sandra, j'ai 36 ans, je suis effectivement maman de 2 enfants, donc Andréa qui a 4 ans et presque et demi, et Paloma qui a 1 an et demi. Du coup, j'ai créé aussi mon entreprise, ça s'appelle F Collective, qui est un réseau pour les femmes entrepreneurs nationales. Et du coup, nous, on s'est connus parce que j'habitais à Lille à ce moment-là et que maintenant, j'ai déménagé de région. Donc, il s'est passé pas mal de choses depuis ces 4 ans.
Exactement.
On va revenir sur les différentes étapes, mais je sais pas si tu veux que je fasse un espèce de « il y a eu ça ».
Écoute, je te guiderai, mais c'est un peu l'idée de partir dans la chronologie. Et surtout, quand on a enregistré notre premier épisode, l'idée, c'était vraiment de parler de « je crée quelque chose, ma boîte, en même temps ». Ouais. Que l'arrivée d'un bébé, ouais. Parce que t'as un peu tout fait en même temps. Mmh. Et puis c'était avant le Covid, c'était avant tout ça et avant tous les pivots qui sont arrivés. À l'époque, t'imaginais vraiment F Collective, je me souviens, comme quelque chose de physique, quelque chose de lillois aussi. Ça a switché. Mmh. Aujourd'hui, F Collective, c'est quoi ?
C'est national, c'est un réseau sur le digital. On a une plateforme en ligne qui met en relation les femmes entrepreneurs grâce à la géolocalisation. En fait, tout a basculé sur le digital, effectivement, parce que tu l'as dit, il y a eu Covid qui est passé par là. Et en fait, nous, ça a été vraiment une révélation au niveau du business model parce que, en fait, il y a plein de gens qui nous suivaient sur les réseaux sociaux et qui étaient hyper frustrés de ne pas habiter à Lille et de se dire, en fait, que du jour au lendemain, ils ont pu avoir accès à ce qu'on créait, ce qu'on proposait grâce au digital. Et tu vois, on faisait des rencontres entre entrepreneurs, on les a basculés sur le digital, ça marchait très bien aussi. Et en fait, c'est vrai que depuis, on n'est jamais repassé sur du 100% physique, mais le physique est important et c'est pour ça, tu vois, qu'aujourd'hui, même on prône le fait de, effectivement, on utilise utilise le digital comme facilitateur de connexion, parce qu'aussi, tu vois, je sais qu'il y a pas mal de mamans qui vont écouter, donc je sais, on a pas mal aussi de mamans sur le réseau, et l'idée, c'est qu'aussi le digital, c'est hyper simple, en fait. T'as pas à aller à une réunion à l'autre bout de la ville, à 7h du mat, enfin, tu vois, nos rendez-vous, comme ils sont en ligne, tu te connectes 2 minutes avant, c'est efficace, en fait, bam, bam, boum, et tout ce qu'on fait est disponible aussi à la demande, en replay, enfin, etc., pour justement se dire, ok, en fait, la journée, peut-être que tu vois, le mercredi, t'es avec tes kids et tout, impossible de bosser, et ben le soir, t'as 1 heure, tu voudrais rattraper un coaching, tu veux rattraper une formation, tu peux te le faire, tu vois, il n'y a pas cette frustration de dire, j'ai pas pu aller à cette réunion parce que j'ai eu un souci d'organisation, du coup, j'ai loupé, et en fait, voilà, tu restes toujours connecté à ce qu'on crée. Et ouais, le système de géolocalisation, c'est hyper top. Et nous, les membres, elles se voient dans la vraie vie. Elles vont boire des cafés ensemble, elles vont bosser ensemble, elles vont déjeuner ensemble. Et ça, c'est absolument fabuleux parce que quand t'es entrepreneur et que tu te lances, généralement, t'es très, très isolé. Et encore pire quand t'es une jeune maman, tu vois, entrepreneur. Il y a beaucoup de switch de vie professionnelle après une maternité, de recherche de sens, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes qui lancent des projets, des projets de trip, moi, j'appelle ça, tu vois, des projets qui tiennent vraiment... c'est le truc qui fait sens, c'est le projet de trip. Sauf qu'en fait, quand tu te lances en entrepreneuriat, t'as pas... Entrepreneur, ça s'apprend. T'as pas tous les codes. Et généralement, voilà, nous, F Collective, l'idée, c'est vraiment d'aider les femmes à monétiser ça, en fait. Parce que sinon, c'est trop...
Tu peux vite basculer dans la précarité, tu n'arrives pas à structurer, donc c'est quelque chose que tu fais à côté, tu n'arrives pas à gagner assez d'argent.
Et nous, les femmes, on ne veut pas gagner d'argent. Enfin, on n'est pas dans le truc, on veut se faire plaisir, on veut être à notre place, etc. Mais en fait, l'argent...
C'est hyper important parce qu'en fait, aujourd'hui, surtout quand tu parles de ce moment, tu deviens parent généralement, et bien... Dans la plupart du temps, t'es en couple à ce moment-là et donc tu comptes sur la deuxième personne. Sauf qu'en fait, un jour, parfois, c'est plus le cas. Et donc, du coup, il faut être indépendant financièrement et c'est hyper important.
Eh ben, je peux pas te... Oui.
Je fais des liens.
Oui, effectivement. Alors, nous, notre but, ce qu'on dit, c'est que voilà, c'est aider les femmes à être indépendantes financièrement. C'est notre mission. Et heureusement que ça a été la mienne, parce qu'effectivement, moi, j'ai du coup vécu une séparation cette année. Et mon Dieu, heureusement que je gagnais mon argent.
Ouais.
Mais heureusement.
Mais oui, parce qu'en fait, ça, ça t'enferme, ça t'emprisonne, en fait, sur des relations qui peuvent être... sur des situations que tu ne veux plus, en fait. Et tu peux pas t'échapper. Et t'es pas libre de tes choix si t'es pas libre financièrement. Donc, en fait, tout est un peu lié. Et c'est génial, en fait, de pouvoir donner accès aux femmes à des choses qui sont pas forcément, qu'elles ont pas forcément apprises à l'école, par exemple, parce qu'elles ont suivi des cursus qui étaient différents. Enfin, je veux dire, tout ce qui est compta, marketing, commercial, sales, enfin, tout ça, c'est pas forcément inné. Et je pense qu'avec F Collective, tu peux leur permettre ça. Et ça, c'est génial. Ça leur permet d'avoir vraiment de pouvoir cadrer leurs activités, les activités triples, comme tu dis. Et c'est marrant que tu dis ça parce que quand l'épisode sera diffusé, on l'aura déjà fait, mais vendredi, je donne une masterclass sur la quête de sens entre maternité et travail. Ce que la maternité change dans le rapport au travail, parce que notre rapport au temps change avec la parentalité. Et du coup, on a envie d'utiliser le temps qu'on a à bon escient, le temps qu'on ne passe pas avec nos enfants à bon escient, et faire quelque chose qui a un impact généralement. Et c'est pour ça que ça switch à ce moment-là. Et donc toi, tu permets aux gens de faire les choses bien, et ça, c'est très cool.
Les clés concrètes, de savoir, ok, et nous, on est très là-dedans, chef collectif, de dire, ok, on se fixe des objectifs, on le fait avec bienveillance, on le fait avec douceur, c'est vraiment une safe place, vraiment, on est dans un cocon tout ensemble, mais par contre, on est dans le cocon, mais on est là pour faire de l'argent. Et c'est du, voilà, c'est du factuel, etc., mais juste en ayant ce mindset-là, en parlant toujours de ça, ça laisse quand même un petit truc dans leur tête en disant, ok, allez, machin, faut que... Et de mettre des objectifs, tu vois, on parlait aussi de l'argent, de la money mindset. C'est incroyable, nous, les femmes, à chaque fois que je parle, tu vois, on a fait un after work avec des membres avant-hier, et vraiment, ça revient tout le temps de se dire, de combien je veux me payer, et vraiment, tu vois, les objectifs, c'est là, genre, et moi, je suis là, mais tu veux vraiment te payer ça? C'est ton objectif, là, genre, c'est... Et tu vois, se dire, non, mais en fait, non, tu augmentes ton objectif, ton objectif, c'est 3 fois plus. Enfin, tu vois, il faut... c'est ouf, les femmes, on voit tout le temps le bas. Minimum.
Et puis donner toujours aux autres avant nous.
Oui.
Et ça, c'est pas... C'est nous d'abord. Mais bon, revenons à nos moutons, oui. Parce qu'en fait, tout ça, c'est hyper passionnant.
Ouais, c'est passionnant.
On pourrait faire un podcast que sur ça, oui. Hein, clairement. Mais là, on est là aussi pour connaître la suite de ton histoire. Donc, on passe d'une toute jeune maman qui va créer sa boîte parce que c'était en cours, à aujourd'hui Sandra, méga girl boss, qui a créé un truc assez fou, qui a désormais deux enfants, qui a déménagé, qui est maman solo aussi. Donc, on a énormément de sujets à aborder. Donc, je vais reposer la question que j'avais posée juste avant. Est-ce que toi, Sandra, tu as toujours voulu avoir plusieurs enfants ?
Oui, parce que... En fait, je crois que c'est très intéressant. De toute façon, tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est très intéressant parce que, en fait, je vais m'auto-analyser parce que comme j'en ai pas reparlé de tout ce qui s'est passé là, de cette année, enfin, en gros, la vague que je me suis pris en plein fouet, c'est intéressant parce que je vais m'auto, tu vois, tout ce que je vais dire, je vais me dire, oh, c'est marrant que j'ai dit ça, est-ce que... Donc, je vais m'auto-analyser. Je pense que oui, mais c'est pas pour, genre moi en tant que maman, je pense que c'est plus pour créer une fratrie en fait. C'est plus ça, parce que moi aujourd'hui ma sœur c'est la personne la plus importante dans ma vie et que je suis tellement heureuse de l'avoir et donc c'est plus comme ça. Donc oui, mais c'est pas pour moi en fait.
C'était pour ton fils. Enfin ouais, plutôt ouais. Vraiment qu'il ait un compagnon, ouais, une compagne de jeu, de vie en fait au quotidien qui puisse
Et puis, de vie, parce que j'espère. Ouais. Enfin, après, bon, ouais, on ne sait pas ce que ça, les liens vont donner, mais tu vois. Mais...
Ouais. À partir de quand ? Enfin, Andrea, avec quel âge, quand tu as eu justement ce désir de te lancer dans cette deuxième maternité ?
Je pense que ça a toujours été là.
Ouais, ça a toujours été là. Et du coup, à quel moment vous avez pris la décision à l'époque de vous lancer dans ce projet ?
Bah, je suis tombée enceinte quand Andrea avait 18 mois. Donc, il était tout bébé.
Il était tout bébé.
Est-ce que c'était genre en mode calculé ? Je pense que oui. Je pense que oui.
Ouais, c'était vraiment... Enfin, pas forcément de contraception, mais c'était...
Ouais, oui. Je sais plus, j'ai plus trop cette info, je m'en rappelle plus. Mais ouais, je suis tombée enceinte, voilà, et puis il y avait évidemment pas de sujet sur le garder ou pas. Et malheureusement, donc aussi, oui, j'ai fait deux grossesses après, deux fausses couches après Andrea.
Ouais.
Du coup, tu vois, cette première grossesse, elle est pas allée au bout, quoi. Et après, je suis retombée enceinte, je crois, 6 mois après. Et pareil, et après je suis retombée enceinte 6 mois après, et là ça a tenu pas le mois.
Ok. On va parler, parce que t'en as parlé sur les réseaux, de tes fausses couches, parce que c'est des sujets quand même qu'on aborde malheureusement trop peu, et qui sont hyper importants parce qu'ils sont très courants. Est-ce que tu étais avertie ? Est-ce que tu pouvais...
Non, c'était horrible. Ça a été, de toute façon, effectivement, on en parle très peu. Et ça a été ce qui a été le plus dur dans ma vie, je crois. Ça a été... J'ai jamais été aussi triste que ce moment. Et non, donc je m'en suis pas attendue. Je me rappellerai toute ma vie, de toute façon, cette fameuse écho. Donc Andrea, je tombe enceinte hyper facilement. Tout s'est bien passé. Et en fait, du coup, je n'avais pas cette possibilité dans ma tête. J'y pensais même pas. C'était, je sais pas. Alors que je sais que ça existait.
Mais comme tout s'était très bien passé, tu t'es pas dit que toi, ça pouvait être la même chose.
Et du coup, l'échographie donc de datation, la première, toute première et tout, quand le mec te dit, il y a pas de cœur, quoi. Enfin, ça bat pas. Enfin, il y a plus machin. Et toi, t'es là. Et vraiment, je crois que je l'agressais, le mec. J'ai dit, mais comment ça ? Non, c'est pas possible. Regardez bien. Enfin, vraiment, j'ai été hyper violente. Et je me rappelle que je me suis mise à hurler et pleurer dans le truc d'écho. Je pense qu'il a pas du tout été. Et en plus, ils t'annoncent ça comme si. En fait, c'est ça. Moi, je me dis, ils sont pas assez formés sur cette annonce. En fait, pour eux, c'est c'est pas. Il me dit comme ça, tu le regardes, tu vois, t'es sérieux, en fait.
Mais toi, tu t'apprêtes à, dans ta tête, à voir ton bébé pour la première fois. C'est un moment joyeux, en fait, pour
j'étais
toi.
J'étais là. Et en fait, il m'a cassé. Et vraiment, j'ai hurlé. Et après, je suis allée dans la voiture et je me rappelle que j'ai hurlé, j'ai tapé de partout, j'étais choquée.
Ouais. T'étais tout seule face à cette annonce-là ?
Non, j'étais avec le papa.
Ouais.
Donc là, ouais, ça a été... c'était horrible. Mais en fait, le truc, c'est que t'as sur une fausse couche qui, en soi, en fait, on dit fausse couche, mais là, quand c'est comme ça, c'est plutôt une grossesse non évolutive qu'il faut après sortir. Ouais. Et c'est pour ça, c'est les différentes étapes. C'est pas, en fait, ça finit pas là, en fait. C'est pas genre, c'est une annonce à encaisser. Et après, la vie continue. C'est en fait, je rentre chez moi, je suis la plus triste du monde. Parce qu'en fait, nous, les femmes, c'est dans notre corps. Et en fait, tu te la projettes, cette grossesse. Tu te projettes, tu te prépares, tu te l'imagines. Et c'est parti, quoi. Mmh. C'est parti, en fait. Ça y est, André va devenir petit grand frère. Et arrêter ça d'un coup, c'est un vrai choc, déjà, à réussir à gérer. Et en plus de ça, derrière, je suis désolée, il faut aller prendre un ébouignonien, il faut que tu choisisses la façon dont il faut expulser le truc, que ça prend du temps. Et en fait, ton corps, le temps qu'il se remette de ça, ça prend des mois.
Ouais.
Et tu te dis, tu vois, enfin, c'est un peu sale ce que je vais dire, mais en fait, là, tu te dis, ok, donc en fait, là, je suis enceinte, je suis plus enceinte, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai un truc mort dans moi, genre, enlevez-moi ça, enfin, tu vois, genre, c'était le truc, moi, j'étais là, mais enlevez-moi ça, enfin, c'est horrible. Et ça, je trouve qu'on n'est tellement pas préparé, tellement pas suivi, c'est un traumatisme. Et après, non, et c'est pas fini, enfin, parce que tu choisis ta façon de, du coup, d'expulsion, donc il y a plusieurs méthodes. La première fausse couche, moi j'avais décidé de pas refaire l'intervention d'aspiration parce que j'étais tombée une fois enceinte quand j'étais jeune, toujours avec la même personne, mais j'étais trop jeune, on venait de se mettre ensemble et j'avais fait l'expulsion et ça m'avait, tu vois, le truc de l'hôpital, enfin c'est vraiment un truc genre ok, t'es en mode anesthésie générale et je me rappelle que j'étais un peu traumatisée de ça et du coup j'ai voulu faire le
par médicament.
Ouais, par médicament. C'était par médicament. Oui, c'était par médicament. Et pff, catastrophique, j'ai fait une...
Parce que t'es à la maison quand tu fais ça.
Ouais, t'es à la maison. Et c'est cato, c'est cata, parce qu'en fait, moi, ça s'est très mal passé. J'ai fait une... une hémorragie.
T'as perdu beaucoup de sang.
J'ai perdu tout le sang de ma vie. C'était choquant. Du coup, je suis allée aux urgences. Du coup, on a fini quand même par me faire l'aspiration. Enfin, tu vois, tu te dis... Ouais. Voilà, donc en fait, c'est juste qu'il faut... Mon message pour ça, c'est qu'en fait, les personnes qui sont dans votre entourage et qui ont déjà le courage de le dire, parce que je comprends pas pourquoi les femmes n'en parlent pas, ils vivent ça toutes seules, enfin, c'est hardcore. Moi, j'avais pris, effectivement, comme tu as dit, la décision d'en parler sur les réseaux sociaux, je m'étais même pris en photo à l'hôpital d'en parler, et en fait, j'avais reçu des centaines de messages en disant « moi aussi, ça m'est arrivé », etc. Et quand on parle aux copines, en fait, des fois, tu te dis «
C'est même fou le nombre de moi aussi que tu entends. C'est vraiment le truc du moi aussi. En fait, c'est pour ça que la libération de la parole est importante, parce que tu te rends compte de quand tu parles d'un truc, tu crois que t'es la seule au monde à le vivre. Et en fait, quand tu en parles, t'as plein de gens qui viennent de dire « moi aussi ».
Mais Lise, pourquoi ? Parce que je te dis, le mec, il te annonce ça, comme c'était machin. Ouais. Là, moi, heureusement, après, j'ai changé de gynéco, mais elle était aussi traumatisante. Elle me disait « mais ça arrive à tout le monde, hein, c'est bon. » Et en fait, tout le monde minimise l'impact que ça a au niveau de ton état mental, émotionnel et tout ce que tu veux, qu'en fait, dans ta tête, tu te dis « oui, c'est rien ». Et tu te dis « c'est rien », mais en fait, pourquoi je réagis comme ça si c'est rien ? Et du coup,
Mais c'est pas rien parce que ça reste... Depuis le jour 1, c'est ton bébé, c'est ton enfant, c'est le bébé qui est dans ton corps, mais c'est la projection que t'en fais. Donc c'est pas rien, c'est un deuil à faire.
Le médecin te dit, c'est... Oui, ce n'est pas un bébé, madame.
Bah si, c'est ton bébé.
Bah ouais, j'étais parfaite dans ma tête et dans mes projections, si ça l'est en fait. Et voilà, donc mon message c'est déjà, si ça vous arrive, parlez-en autour de vous. Restez pas seule parce que c'est pas possible. Enfin, on peut pas. Il faut que ça sorte en fait. Il faut que ça sorte. Il faut pleurer. Il faut. Et c'est pas rien en fait. C'est pas rien. Après, je pense qu'il y a des personnes qui le vivent plus ou moins fortement, etc. Mais c'est pas rien. Et surtout, s'il y a une personne qui vit ça ou qui vous le dit, ne minimisez pas le truc. Ouais. Enfin, vraiment. Parce que moi, maintenant, quand on me le dit. Et c'est marrant parce que t'as quand même le truc de se dire, t'as quand même des filles qui te le disent en mode, ouais, j'ai fait une fausse couche, mais elles te le disent, je suis
comme si
elle t'avait dit. Et moi, je la prends par le bras en mode, mais ça va, enfin, ça va. Et comme je l'ai vécu et que je sais comme j'ai été traumatisée, et qu'elle te dit, oui, non, mais ça va, t'inquiète. Mais en fait, pourquoi tu mens? Pourquoi tu fais semblant que c'est rien, en fait, tu vois? Et c'est ouf, il y a des gens qui mettent vraiment
la distance.
Ouais, de la distance avec ça. Mais après, il faut respecter ça. Donc, là, j'ai dit, elle veut pas aller plus loin dans le sujet. J'ai dit, tu sais, moi, ça m'est arrivé aussi, machin. Et elle a pas voulu, mais dans mon petit cœur, moi, ça m'a... Tu vois, je sais. Et en fait, quand on me dit, il faut se coucher, et que j'entends, il faut se coucher, vraiment, mon petit cœur saigne, tu vois, je sais ce que c'est. Et voilà, donc... Donc ouais, la première fausse couche, du coup, c'était long. Et après, le temps de ton corps, il se remet, que t'as de nouveau tes règles. Ouais. Tu vois, ça prend 4 mois, facile.
Toi, tu t'étais dit que tu voulais réessayer très très vite.
Ah oui.
Ouais.
Et malheureusement, ça n'a pas remarché. Mais c'est la deuxième fois, du coup, t'as plus la même... En fait, moi, c'est pour ça, le truc, c'est que Paloma... On m'a enlevé cette... Je vais peut-être pleurer, hein, je vous le dis.
Non, j'ai pas pris ma voix de mâche. J'ai demandé à Lou de la mettre.
Parce que c'est... Paloma, ça a été... Du coup, t'as plus la même innocence, en fait. Et donc, la deuxième fausse couche, bah, du coup, je suis allée au rendez-vous en disant, je sais que ça va mal se passer.
Ah ouais, t'avais intuition ou alors t'avais
non,
une peur?
Non, parce qu'en fait, je sais qu'on va me l'enlever ce moment, en fait. On me l'a déjà enlevé une fois, en fait. Et du coup, bah, et voilà, effectivement, on te redit que c'est machin, nanan.
C'était les mêmes conditions, enfin, je veux dire, t'as fait deux fausses couches similaires. Ouais.
Et donc, là, la deuxième fois, donc là, j'ai vraiment compris qu'il fallait vraiment que je change de gynéco pour le coup, parce que vraiment, genre, traumatisé, enfin. C'est du, comment dire, c'est de la violence mentale, c'est waouh. Et je me disais en fait ça peut pas marcher, je suis pas dans un environnement, bon bref. Et donc j'ai été moins surprise, donc moins choquée, tout aussi triste, parce qu'en fait, allez, c'est reparti, les rendez-vous, les machins. Et donc là, j'ai décidé de faire l'aspiration directe. Hein. Mais tu vois, c'est chiant, tu vas à l'hôpital d'une journée, bah je suis désolée, c'est pas rien en fait.
C'est pas rien pour ton corps non plus, hein, parce que t'as une anesthésie générale. Enfin, après, je crois qu'il y en a quelques-unes qui font sans anesthésie générale, mais... majoritairement c'est des anesthésies générales, donc pour ton corps c'est déjà, enfin on t'injecte, enfin c'est pas anodin, dans ton corps non plus, c'est une intervention qui va aller quand même toucher ton utérus, enfin c'est pas rien, tu vois.
Et vraiment, je me rappelle que la deuxième, j'étais tellement, en fait j'étais dans un état tellement de tristesse que je voulais pas me réveiller, je me réveillais pas. Et le personnel, ils étaient là genre, et en fait je les regardais, tu vois, je me réveillais vraiment genre je veux pas me réveiller de cet enfer, en fait. J'ai envie de rester inconsciente, tu vois, parce que j'ai pas envie de me réveiller, de me rhabiller, de repartir dans la vie, de re-sourire, enfin, tu vois. Donc voilà, et puis, du coup, Paloma, donc je suis retombée enceinte, donc le même mécanisme de, bah, on va m'enlever, et en fait, j'ai eu un peu ce pressentiment toute la grossesse, quoi.
T'as eu peur tout le temps.
Ouais. Alors qu'Andrea, j'étais dans un truc de, oui, tu vois, genre, Teletubbies, genre, là.
Ouais, tu t'étais beau, je me souviens que tu m'avais dit, t'avais vécu une grossesse de rêve, quoi.
Incroyable. Et Paloma, j'étais pas dans le même truc, j'étais on va me l'enlever en fait.
Après, t'étais pas dans les mêmes conditions de vie non plus, puisque t'étais quand même à un moment où F Collective avait pris une autre ampleur et je pense que tu travaillais aussi beaucoup plus.
Oui.
Est-ce que ça t'a fait du bien justement d'avoir le taf à côté?
F Collective, dans tous les cas, m'a sauvée de tellement de choses. Le fait d'être à ma place professionnellement, ça m'a sauvée de tellement de choses. Donc de déjà des fausses couches. la grossesse, de me dire en fait j'avais peur qu'on me l'enlève, mais que finalement je passais pas mes journées à penser à ça en fait, puisque j'avais d'autres trucs à penser, et je me disais fais ce que t'as à faire et tu vois, ça va, on va voir comment ça va grandir, évoluer, etc. Mais j'ai mis du temps à vraiment me projeter avec ce bébé, hein.
Est-ce que t'as réussi à te connecter avec Paloma?
Non, pas pendant la grossesse. Non. Après, aujourd'hui, je suis hyper connectée à elle parce que je pense que j'ai l'impression qu'on a vécu des choses ensemble très fortes, parce qu'on était deux en fait, on était elle et moi. Mais pendant la grossesse, non, j'étais beaucoup moins, j'étais beaucoup moins connectée à ce bébé, tu vois, parce qu'on allait me l'enlever en fait.
Ouais. C'est marrant, cette expression de on va me l'enlever. Comme si c'était, c'est vraiment quelqu'un à chaque fois d'extérieur qui te l'enlève. C'est cette annonce-là, en fait, qui est le plus traumatisant.
Ouais. Et je me rappelle du visage de toutes les personnes qui m'ont enlevé mes grossesses.
Ouais.
Tu vois, c'est ça qui est. C'est pour ça que je dis, c'est incroyable le fait que. Putain, mais formez-vous, je sais pas, mettez les formes, quoi.
Ouais. Non, mais complètement. Enfin, je veux dire, c'est pas. En fait, ce qui est délicat, c'est que c'est des gens qui voient des trucs horribles tout le temps, enfin pas tout le temps, mais souvent, et qui peut-être sont, après là c'est moi, psychologie de comptoir, bonjour, mais qui sont peut-être déconnectés de l'émotionnel, eux, parce qu'en fait sinon c'est trop dur pour eux à gérer d'avoir, d'être tout le temps dans l'émotion, mais il n'empêche que, des grossesses désirées, c'est des projets de vie, quoi.
Mais
tu peux pas dire juste oh bah voilà c'est fini, il va se passer ça, et quand ils t'expliquent ce qui va se passer, parce que parfois pas toujours en fait, t'es censé, ils agissent parfois, ils te disent des choses comme si t'étais au courant, alors qu'en fait non, c'est la première fois, même la deuxième fois en fait.
Ouais, je dois faire quoi maintenant en fait.
Ouais. Et puis c'est à toi de prendre toutes les initiatives aussi, d'aller prendre le rendez-vous, d'expliquer je ne sais combien de fois, je fais une fausse couche, mon bébé n'est pas viable, mon bébé, le cœur de mon bébé s'est arrêté, c'est des mots, on pourrait simplifier le parcours, en fait, des personnes qui vivent ces drames-là. Tu as beaucoup utilisé le mot « rien », et ça m'a fait penser à Mathilde. J'ai reçu une, sur le podcast Mathilde Lemille, je sais pas comment elle dit son nom, qui a créé un compte Instagram qui s'appelle Mais presque rien et qui parle justement de fausses couches. Elle a fait des fausses couches à répétition et à chaque fois on lui disait que c'était rien. Et le Mais presque rien, bah du coup ça a vraiment cette idée de dire que bah non, c'est pas rien en fait. Il faut arrêter de dire que c'est rien parce que c'est pas le cas. Et puis ça a une incidence après derrière, enfin sur les grossesses d'après, de dire ben moi je sais pas, enfin connecter à mon bébé. Et il y a pas de suivi psy en fait, il y a pas d'accompagnement.
Enfin, ouais, exactement. Enfin je veux dire là le parc, enfin je me dis le truc logique, ça serait toutes les personnes à qui on annonce que le bébé n'est pas viable ou que etc. Ils doivent dire à leur rentrée. Qui rentrent nos coordonnées sur un truc où, dans l'heure, on est appelé par quelqu'un, en fait. Ouais. Donc là, voilà ce qui, est ça, et ce qui se passe pour vous. Voilà ce qui va se passer après. Voilà ce que vous devez faire. Juste les premières étapes, et je vous rappellerai dans X jours pour voir si vous avez envie de parler un petit peu. Enfin, tu vois, juste... alors oui, je sais que les personnes, là, elles n'ont pas le temps et que ce n'est pas leur...
Bah, ça manque de personnel, enfin, voilà, plein de choses, hein.
Mais, et moi, je me rappelle que j'avais cherché aussi beaucoup, beaucoup de contenu. J'avais besoin... d'entendre, tu vois, des femmes à qui ça arrivait et qu'elles disent aussi, je suis traumatisée, je suis choquée, voilà. Et j'avais besoin de me dire, mais c'est pas moi, enfin, en gros, tu vois, et j'avais réussi à trouver quelques épisodes de podcast, mais très peu. Et je trouve que, ouais, c'est pas assez...
C'est comme tout, on en parle un peu plus, il y a plus de personnes qui prennent la parole et tant mieux parce que c'est trop important, mais c'est jamais assez. C'est jamais assez parce que ben il faut les trouver ces personnes-là et on ne les a pas toujours à disposition.
Et elles le disent pas quand tu vois. Non. Genre, ça se trouve serait hyper simple si tout le monde le sait. Ouais. Si.
Ben, déjà le truc de pas annoncer ta grossesse avant 3 mois, tu vois. Enfin à partir de là, enfin forcément qu'il y a plein de femmes qui vivent ça seules parce que ben personne ne sait. Au cas où, bah justement, c'est parce que au cas où qu'il faut le dire, enfin si on en a envie après, voilà, mais que c'est intéressant et important de le dire avant parce que c'est justement dans le au cas où, dans le quand ça se passe mal, qu'on a besoin des gens, qu'on a besoin d'être entouré, qu'on a besoin d'amour.
Pas si ça se passe bien. Tu peux vraiment t'isoler. Hein. Enfin, moi, c'était...
Complètement. Et donc tu dis, tu n'arrives pas à connecter à Paloma, mais en fait ça se comprend parce que tant qu'elle n'est pas là, elle n'est pas là.
Exactement. Mais quand elle a été là, tu vois,
la rencontre s'est vraiment fait le jour où elle est arrivée. Quoi.
Ouais.
Et du coup.
Et tu vois, j'ai même pas, excuse-moi, je te coupe, mais j'ai même pas fait le parcours de préparation à la couche. Moi, j'ai rien.
En fait, t'as vécu une grossesse comme si t'étais pas enceinte.
Ouais, exactement.
T'as pas ralenti le rythme du tout.
Non.
T'as travaillé jusqu'au.
Tout le temps.
Jusqu'au bout, en fait. Bout du bout, d'ailleurs. T'as vraiment fait comme si elle n'existait pas, en fait, cette grossesse. C'est pas évident, enfin, surtout après une grossesse d'Andrea que t'as vécu pleinement.
Ouais. Mais moi vraiment la grossesse d'Andrea, le souvenir que j'en ai, tu vois, c'est waouh, je me rappelle, je préparais tous les petits trucs, je rangeais les petits body parts de machin. Bon après le deuxième, c'est généralement c'est pas comme ça non plus, mais ouais, tant qu'elle, j'ai appris Valoma, c'était vraiment faire quand elle sera là, parce qu'en fait d'abord faut qu'elle soit là. Ouais.
Est-ce que t'as demandé le sexe du bébé pendant la grossesse? Oui, ça t'a pas amené plus de concret?
Non. Enfin si un peu, mais cette peur, c'est horrible.
Jusqu'au bout quoi.
Jusqu'au bout.
Il n'y a rien qui t'a rassuré.
Une épée d'Amoclès sur la tête, quoi.
Okay. Pendant cette grossesse, tu as aussi décidé de changer de vie.
Oui.
Pour quelle raison tu as décidé de partir?
Ouh, ça, c'est des raisons personnelles.
Ouais, mais alors, pas forcément... parce qu'il y a des raisons aussi qui font que c'est lié aussi à ces bébés-là. Enfin,
Ouais. Moi, ma famille, elle n'est pas à Lille. Et du coup, l'idée, entre autres, c'était de me rapprocher de ma famille pour voir si ça fonctionnerait plus. Si l'idée allait pouvoir fonctionner, bon, ça a fonctionné. Enfin, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, etc. Mais ouais, c'était ça un peu l'idée de me rapprocher de ma famille.
Ok. Parce que du coup, enfin, je veux dire, tu développes une boîte. Tu pars à l'autre bout de la France, parce que quand même, l'île Grenoble, on n'est pas non plus sur des distances. Enfin voilà. Tu pars à l'autre bout de la France, tu connectes pas avec ton bébé. Comment ça se passe la naissance de Paloma?
Oh, la naissance de Paloma, elle est... Paloma, c'est... Paloma, elle a décidé d'arriver à terme. Du coup, je suis allée à l'hôpital à terme. On m'a proposé de me déclencher.
Pour quelle raison? Il y avait une raison?
Bah, tu sais, ils te proposent, est-ce que vous voulez rester et tout. Moi, l'accouchement d'Andrea, c'était l'accouchement parfait. Péridurale, pareil, genre trop cool, bien, y arriver vite, parfait, ta 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 ta. Du coup, moi, dans ma tête, pareil, c'était, ça va se passer comme ça aussi. Et en fait, donc, du coup, on décide de pas se faire déclencher le jour même. Et en fait, elle est arrivée dans la nuit, la nuit, et en fait, elle est arrivée, mais genre, poussez-vous de là, quoi.
Ah
Ma fille, c'est noire ailleurs déjà. Oui, genre, première petite contraction, mais rien de. Enfin, normal de d'habitude, en fait, c'est la nuit, ça
ouais.
tire et tout. Et en fait, vraiment, en 1 heure, c'est passé de rien à tout. Et j'ai failli coucher dans la voiture tellement elle était là, genre, poussez-vous de là,
Elle était pressée.
j'arrive. Ouais, donc dans la voiture, les contractions, les vraies contractions. Tu sais, quand on te dit, ça sera des vraies contractions, tu
Tout ça.
sauras, ouais, ça y est, j'ai compris. Et du coup, bah, arrivé à la maternité, et vraiment, bah, on m'a dit, moi j'étais là, genre, la péridurale. Et vraiment, on m'a regardé, on m'a fait. Non, elle a été mignonne parce que je crois qu'elle a fait semblant de pas me
Qu'est-ce
dire.
que
Elle m'a pas dit non. Elle est pourquoi elle était mignonne? Parce que je pense qu'elle avait vu mon état et elle s'est dit si je lui dis non, elle va me frapper. Du coup, je crois qu'elle a fait semblant. Elle m'a mis un coton mouillé dans le dos parce qu'en fait, j'étais à
Ouais,
10,
t'as
quoi.
couché,
J'ai
quoi.
accouché. Donc en fait, c'était pas possible. Donc je pense qu'elle a. Parce qu'après, j'étais. Mais elle a failli me mettre. Elle a voulu mettre la péridurale et j'étais en train d'accoucher. Mais je pense qu'elle a fait semblant, en fait. Elle a dit, bah, c'est pas possible. Et là, elle m'a regardée. Je me rappellerai toujours de son regard là, avec le masque. Elle m'a regardée. Elle m'a pris le bras. Elle m'a dit, maintenant, madame, on va pousser. Votre bébé, il arrive. Et là, et la douleur. Enfin, je veux pas, du coup.
Ah mais si, on est là pour ça.
Mais mon Dieu, la douleur! Mais la douleur!
Bah t'avais pas préparé un accouchement sans
Mais
péridurale.
j'avais pas préparé du tout un
Un
accouchement,
accouchement.
déjà, j'avais rien préparé du tout. Je suis arrivée comme ça avec mes petits souliers. Mais alors, en fait, c'était même pas encore une fois une éventualité, tu vois. Je savais qu'il y a des gens qui le faisaient, mais vraiment, non. Enfin, c'est pas. Et j'ai cru que j'allais mourir, mon Dieu. C'est la douleur. Pouah. Mais après, donc, la chance dans la malchance, c'est 3 poussées, elle était là. Donc l'accouchement, c'était un peu vraiment violent.
Ouais.
Moi, je l'ai encore. Mon accouchement, je l'ai. Je le.
Tu l'as vécu comme un trauma?
Oh. Oui, alors
Ouais.
oui, mais maintenant qu'elle est là et que je l'ai. Enfin, tu vois, je sais pas. Ça m'a adouci ce moment qui effectivement moi m'a traumatisé. En fait, ce qui m'a traumatisé, c'est de me voir en état animal.
Tu maîtrisais pas là.
Je maîtrisais rien, mais surtout je hurlais. J'agrippais tout ce que je pouvais, j'étais un animal. Franchement, j'avais à la fin, vraiment, je me suis excusée auprès de tout le monde parce que vraiment j'avais honte tellement j'ai hurlé, je criais. Je me dis, mais tout l'hôpital a dû entendre. Et je pense que eux ont l'habitude, mais vraiment, moi, de me voir dans cet état de torsion, tu te tords dans tous les sens et tu hurles, et t'es un animal. Et moi, c'est plus ça. Le choc que ça a été, la douleur aussi, mais c'est plus me voir dans cet état animal et vraiment 2 secondes après, c'est bizarre de se dire, tu vois, ça passe, t'es dans cet état-là et 5 minutes, enfin 5 minutes après, quand le bébé sort, tout s'apaise et toi, t'es encore en mode révulsion, comment on dit, des
Ouais, les
palpitations comme
convulsions,
ça,
ouais.
convulsions, de tremblement de ce qui vient de se passer, t'es là, genre, ça y est, c'est fini, c'est pas fini, je sais pas. Je sais pas, moi je l'ai vécu comme un traumatisme. Mais je crois, tu vois, là, tu vois, je m'analyse. Avant, quand j'en parlais, je pleurais. Et là, je t'en parle, non, je pleure plus. Donc, ma paloma, elle a adouci tellement de choses.
La rencontre, comment elle s'est passée?
La rencontre, elle s'est passée. Elle s'est bien passée. Il y a des trucs que j'ai pas trop envie de raconter. Elle s'est bien passée. J'ai eu un bon moment. J'ai eu quelques jours avec elle à la maternité, toute seule avec elle. Et ça, pour le coup, ça a été plus mon moment à moi avec elle. Après, voilà, quand elle est arrivée, on l'a tout de suite donnée au papa, qui s'est mis avec elle en peau à peau. Et moi, après, on a voulu du coup me recoudre, etc. Et en fait, la fille, elle m'a charcutée. Et je n'avais pas d'anesthésie, c'était horrible, en fait c'était pas fini, genre mon accouchement n'était pas fini, et moi je continue à hurler, je continue à hurler de douleur, je disais mais mettez-moi un truc, faites-moi des piqûres d'anesthésiant, j'en sais rien, et je sais pas ce qu'elle foutait, hein, vraiment, je la regardais, genre mais tu fais quoi? Et donc c'était un moment en fait où j'ai pas vraiment rencontré ma fille parce que pendant ça a
ouais.
été long hein. En fait elle était là, eux ils étaient dans leur petit moment là cocon machin et moi j'étais encore sur ma table en train de d'hurler d'avoir mal quoi. Ça finit pas. Donc tu vois ma rencontre avec elle, je l'ai pas, c'est pas ce moment en fait. Après je l'ai eu en peau à peau. Mais le moment où je l'ai vue, c'est vraiment quand je me suis retrouvée seule avec elle dans la chambre.
Ok.
Et là, on a vécu quelques jours toute seule, comme les enfants, tu vois.
Oui, c'était encore en Covid.
En Covid, ouais. Donc les enfants ne pouvaient pas venir. J'ai pas eu trop de visites parce que pareil, ils ne pouvaient pas venir non plus. Donc ça, c'était trop bien. Et j'ai vraiment... ma rencontre, elle s'est fait vraiment à ce moment-là, dans la chambre, toutes les deux, quoi.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça a fait de devenir maman de deux enfants?
Qu'est-ce que ça fait de... Bah, c'est plus simple. Hein.
Tu trouves ça plus simple, toi?
Non, c'est plus simple. C'est-à-dire, je sais que... Tu sais que tu te connais maman. Donc, c'est ça.
Ouais.
T'as moins toutes les questions du premier. Enfin, tu vois, tout ce que j'ai raconté sur l'autre épisode, le premier épisode de podcast. Toutes les questions, tout le tsunami, tout le machin. En fait... c'est quand même plus facile, je trouve.
Ouais.
Plus doux.
T'as fait des choix différents avec Paloma.
J'ai pas allaité Paloma, je m'en sentais pas capable. Je m'en sentais pas capable, en fait.
Ah ouais, carrément. Et c'est un choix que t'avais fait dès la grossesse?
Oui, je le disais. Après, dans ma tête, je me disais, bon, je verrai sur place. Parce qu'encore une fois, comme je me projette pas, je verrai sur place. Mais dans ma tête, c'était non, je pense pas à l'été. Et c'est ok. Après, j'avais eu peur de pas avoir la même connexion du coup avec le bébé. Mais ça, c'est des grosses conneries. Ouais. Mais tellement des grosses conneries. Parce que Paloma, je suis autant connectée que mon fils. Je suis fusionnelle avec elle alors que je ne l'ai pas allaitée. Donc, faut pas culpabiliser vraiment. Ça. Et cette décision était ok. Moi, je ne culpabilisais pas de lui donner des biberons.
Mais tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est un peu
non,
principal.
Ça a été très. C'était ça pour le coup. C'est vraiment un sujet que je me suis pas mis sur le dos en culpabilité. Mais c'est quand même parce qu'André, je l'ai quand même allaité presque 6 mois. Hein.
Ouais.
Donc je suis passée vraiment de tout à rien.
Mais bon, c'est des moments de vie vraiment différents.
Ouais, je m'en sentais pas capable. J'avais pas la force. C'était pas possible. Et c'est très bien passé. Et du coup, tu vois, les nuits, du coup, tu peux aussi les splitter, faire...
C'est pas du tout la même chose. Comment tu vis ton postpartum de cette quatrième grossesse, en fait? Parce que c'est ça aussi, c'est une quatrième grossesse.
Je pense que je l'ai pas encore vécue. J'ai pas eu le temps. Il s'est passé trop de trucs. Il s'est passé trop de trucs. Donc, en fait, pour dire dans les trucs un peu factuels, après la naissance de Paloma, je me sépare du papa des enfants. Ça se fait pas, ça se fait, c'est dur pour tout le monde. Et du coup, vraiment, je me suis pas du tout, j'ai pas eu de postpartum, j'ai pas eu le temps en fait.
T'en as eu un, t'en as vécu un, mais tu n'as pas eu le temps de le poser, t'as dû enchaîner quoi.
Je sais pas si j'en ai eu un.
Ah, si, un postpartum, dans tous les cas, dans les faits, c'est la période. Après la grossesse, donc dans tous les cas, t'as vécu la période après la grossesse. Ça veut pas dire, mais ce que tu veux dire peut-être, c'est que tu n'as pas eu le temps de te poser, de vivre vraiment, de vivre les choses en fait. C'est que la vie, c'est peut-être un peu imposé à toi.
Oui, tout à fait. C'est ça. Donc je sais pas. Ouais. Là, franchement.
Est-ce que tu t'es arrêté de travailler juste? Rien que ça, tu vois.
J'ai levé le pied. J'ai la chance d'avoir Odélia qui a apporté énormément. J'arrête pas de le dire depuis plusieurs jours parce que comme on est à Lille, de passage à Lille, du coup je vois plein de gens et j'arrête pas de le dire. Heureusement, donc Odélia, si tu m'écoutes, heureusement qu'elle était là parce que seule là, avec tout ça, j'aurais pas, ça aurait été très compliqué. Mais elle a porté beaucoup de choses. Donc heureusement, mais oui, non, je me suis pas arrêtée de travailler. Mais ça m'a sauvée, Élise.
Ouais, je sais.
Ça m'a sauvée, moi, F-Collective m'a sauvée. Heureusement que j'avais ça. Parce que là, je pense qu'on serait pas là. Hein. Moi, je serais... Je sais pas, ce que je serais
débile. Cette séparation, on va pas rentrer dans les détails, parce que ça nous regarde pas, mais en termes de chronologie, elle arrive combien de temps après l'arrivée de Paloma?
La séparation vraiment physique. Paloma, je crois qu'elle avait 7 mois, un truc comme ça.
Ouais. Est-ce que tu t'étais... imaginer maman solo?
Ah, mais bien sûr que non. Mais absolument pas. Mais personne s'imagine ça. Personne n'a envie de ça pour soi.
Ouais.
Mais en fait, t'as un truc à déconstruire dans ta tête, en fait, de se dire...
Tes parents sont toujours mariés ?
Oui, mes parents.
Toi, t'as pas de modèle de divorce. Donc forcément, c'est pas quelque chose que tu peux imaginer.
Non. Et ma sœur, elle est toujours allée avec son mari. Donc effectivement, évidemment, non. Donc déconstruire la famille, tu vois, l'image de la famille. La culpabilité pour les enfants, de se séparer, de plus avoir papa et maman dans la même maison. Y a beaucoup de choses quoi, à travailler. Après, ça se fait du moment où chacun sait que c'est le bon choix et que si on est de toute façon ensemble dans une même pièce, on voyait bien que Andrei changeait de comportement. Il sentait l'électricité. Et du coup, il vaut mieux papa et maman séparés, heureux chacun de son côté, que malheureux ensemble, en fait.
Mais il y a beaucoup de couples qui restent ensemble pour les enfants. Moi, j'ai été un enfant de « on reste ensemble pour les enfants ». Ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça, parce que ça détruit des vies. Plus qu'une séparation. Moi, j'ai été cette petite fille qui rêvait que ses parents divorcent. J'ai été cette petite fille-là, et en fait... non mais moi aussi je vais pleurer, on va pleurer ensemble, ça va être sympa. Et en fait, c'est aussi un cadeau que tu peux leur faire, de pas rester, parce que c'est... Ah, je m'y attendais pas, celle-là. C'est chiant de faire des podcasts avec des gens qu'on connaît. Et en fait, vraiment, c'est un cadeau, parce que rester ensemble pour les enfants, en faisant croire que c'est ce qu'ils veulent et en faisant croire que c'est la famille idéale et que ça va leur apporter tout ce qu'ils souhaitent, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que les enfants sont tout. Et les enfants qui vivent dans des relations où c'est justement compliqué, ne sont pas heureux. Alors qu'en fait, un parent heureux fait un enfant heureux. Et si t'es heureux sans le papa ou sans la conjointe ou peu importe, en fait, ta configuration de famille. En fait, si tout le monde est heureux et si tout le monde... Enfin, c'est ça qu'il faut. Alors oui, en termes de logistique, c'est plus compliqué. Bien sûr, t'es toute seule selon ce que tu choisis.
Et pour
eux, c'est compliqué. Mais en même temps, ce sera leur norme, en fait. Ce sera leur norme. Et oui, en fait, faut pas dire que c'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, enjoliver les choses avec les... Vous aurez deux fois plus de cadeaux d'anniversaire. Ça enlève la souffrance que ça peut être. Ceci dit, ta fille n'aura connu que ça.
Ma fille ne les aura même pas connus ensemble.
Donc en fait, ce sera vraiment pour le coup sa norme. Ouais. Enfin, c'est quelque chose dont elle se souvient. Enfin, qui n'aura pas de sens pour elle. Donc en fait, ça lui manquera pas potentiellement. Mais donc accueillir la souffrance des enfants, parce que ça peut être douloureux, parce qu'en fait il y a le manque aussi qui est quand l'un des parents n'est pas là, dans les deux sens. Mais la séparation, vraiment, c'est quand ça va pas, enfin c'est un très très beau cadeau que tu fais à tes enfants.
Oui, je le sais, enfin je sais. Après oui, c'est dur pour tout le monde, c'est dur de tous les côtés, mais en fait encore une fois, on se rend pas compte à quel point on est forte, quoi. Parce que après il faut partir, il faut trouver un autre logement, il faut, tu vois, là aujourd'hui du coup moi j'ai mon appartement, tu vois, je, enfin,
alors c'est peut-être pas la grande maison dans laquelle tu rêvais d'élever tes enfants, mais en fait
c'est mon appartement de transition, c'est mon chez moi, c'est mon cocon. Je fais ce que je veux, j'ai les affaires que je veux, je fais tout comme je veux. Et j'ai jamais été aussi heureuse que ça. Et tu l'as dit tout à l'heure, et je rebondis dessus, moi j'ai une seule mission à partir de maintenant, c'est d'être heureuse. Et c'est ma mission de vie, parce que je sais. Parce que je sais, tout ce que tu as dit, je le sais. Je veux dire, les enfants, ils veulent juste des parents heureux, en fait. Et si tout le monde est heureux, même si chacun de son côté, et voilà, moi je sais que là, du coup, c'est la logistique pour eux, c'est ce qui me fait un peu culpabiliser, parce que en plus comme Paloma est petite, on fait pas une semaine, donc en fait ils changent, on fait deux dodos, trois dodos, donc tu vois, le matin André me demande ce soir c'est qui vient me chercher, enfin tu vois, putain,
c'est pas encore fixé.
Ouais,
ça viendra, ça.
Non, c'est parce que Paloma est trop petite, une semaine, mais du coup c'est chiant. Mais après bon, c'est des enfants, ils s'adaptent hyper facilement, et eux, ils s'adaptent hyper facilement, en fait. Du moment, il faut bien leur expliquer tout, bien communiquer, et les entourer. Moi, d'amour fois mille, c'est fois mille. Ouais, je crois que je leur donne encore mille fois plus d'amour que je fais hyper gaffe à ça. Ouais. Voilà, c'est encore plus de paroles rassurantes, de je t'aime, de câlins. Je fais que de câlins et tout. Et voilà, et de sourire et de leur montrer que leur maman elle est heureuse et que tout va bien en fait, qu'ils s'inquiètent pas, tout va bien.
Et puis en fait, d'avoir devant eux l'exemple d'une maman qui se bat pour son bonheur, ça leur donnera les clés pour le faire pour le leur en fait. Et se dire que en fait, tu leur montres un super exemple quand même, parce que tu prends des décisions pour toi, pour ce qui est bon pour toi. Et en fait, ça en termes de... Enfin, t'es pas là pour faire plaisir aux autres, en fait, t'es là pour te faire plaisir à toi. Même si, en fait, en complément de ça, tu as monté, par exemple, une entreprise tournée vers les autres. Donc, c'est pas de l'égoïsme pur et simple, c'est juste que c'est ce qui t'a sauvé toi, c'est ton bonheur à toi pour pouvoir transmettre après derrière. Et en fait, leur donner cet exemple-là, enfin, il y a quoi comme meilleur exemple que ça?
Je sais pas, moi, ce qui me... Mais là, quand tu parles de ça, je me dis oui, je sais tout ce que tu dis, oui. Mais... Tu sais pas comment eux vont interpréter la chose quand ils seront un peu plus grands.
La communication, parler, et il faudra en reparler. Là, ils sont peut-être trop petits pour vraiment poser les mots. Mais je veux dire, si à un moment, ils ont besoin... Enfin, leur montrer que la porte est toujours ouverte pour la communication, en fait. Qu'ils pourront poser toutes les questions qu'ils veulent parce que c'est leur histoire aussi.
Exactement.
Et à partir du moment où tu mettras des non-dits, c'est là qu'il y aura de la problématique. Si tu dis tout, si tu es transparente et que tu racontes les choses de manière factuelle, en oubliant les ressentiments, parce que dans les séparations, il y en a toujours. Mais les enfants n'ont pas à vivre ça. Les enfants sont des enfants. Les histoires d'adultes, ce sont des histoires d'adultes.
Clair,
et ça ne les regarde pas. Parce que pour eux, maman sera toujours maman et papa sera toujours papa. Et c'est ça qui compte, en fait.
Exactement.
C'est vraiment ça. Peu importe les histoires qu'il peut y avoir derrière. Mais en fait, la transparence et la communication sera la clé, en fait. Ce sera ça. Aujourd'hui, peut-être pas, parce que vraiment, ils sont petits, mais même, ils peuvent avoir des questions aussi.
Bah ça, je le fais déjà, même pas Loma qui a un an et demi, j'essaie vraiment de lui expliquer, etc. Elle te regarde comme ça, genre, mais non, mais c'est important.
C'est hyper important. Très important.
Ouais. Donc,
Et puis, tu vois, on en parlait au tout début de l'épisode, mais l'indépendance financière, ça, mais enfin, comment tu fais sinon? Tu peux pas partir. Tu peux pas décider de ta vie si t'as pas d'indépendance financière. Et ça, c'est trop important.
Ouais, tout à fait. Mais ô combien. Non, c'est clair. Et puis, encore une fois, moi, F Collective, cette année, ça a été compliqué. On a maintenu... Enfin, tu vois, moi, je me dis, mais avec ce que j'ai traversé, mais comment on est encore là? Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable comment on est encore là. Après, tout le monde nous dit, de l'intérieur, nos clientes, et même de l'extérieur, que ça ne s'est pas du tout senti.
Non.
Enfin, tout le monde... Enfin, tu vois, je me dis, comment... Il n'y a personne qui a senti quand même que... La fondatrice, elle s'est pris une...
Non, parce que tu as réussi à construire autour de toi une équipe fiable.
Tout à fait. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit heureusement que, parce qu'en fait... Et moi, F Collective, pour le coup, à chaque fois, ça n'allait pas. Donc, on a parlé des fausses couches, on a parlé de la séparation. Comme c'est mon projet trip, et c'est là où c'est important de trouver sa place professionnellement, même si c'est en entreprise, mais d'être heureux professionnellement, parce qu'en fait... si en plus de tout ça, t'es pas heureux dans tes journées, mais pouah. Et moi, F Collective m'a sauvée parce qu'il était, il a jamais été question, ne serait-ce qu'un seul instant, une seule seconde, malgré tout ce que je traversais, qui c'était dur physiquement, psychologiquement, émotionnellement, d'arrêter. Mais jamais.
Moi, tu t'es jamais dit, je vais aller prendre un job salarié histoire d'assurer les fins de mois tous les mois?
Jamais. Mais parce que pourquoi? C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Parce que c'est ce qui me rend heureuse. Et que si je m'enlève ça, mais je me coupe une jambe. Enfin, tu vois, je me tire une balle dans le pied toute seule. Et mon objectif dans la vie, surtout encore plus maintenant, on devrait tous avoir ce objectif, et maintenant que je suis une maman solo, c'est d'être heureuse. Et du coup, avec tout ce qui s'est passé cette année... Je sais que, et c'est marrant parce que j'ai fait, ça a été mon thème de 2023 que je me suis donné, que le perso apporte de la puissance au pro. Donc là, maintenant j'ai beaucoup de douceur dans mon perso et que ça y est, je sens que ça y est, je vais y aller, je vais tout péter en fait.
Ouais.
Là, c'est bon. En fait, cette année, ça a été une année où on a... stabilisé. Mmh. On a survécu stabilisé. On est exactement à ce qui était l'année d'avant. Donc, tu vois, on n'a pas perdu, etc. Donc, c'est très bien. Et maintenant, tout ce qui s'est passé, mais ça m'a donné la rage. Mais une rage. Mmh. Mais une rage de réussite. Parce que maintenant, en fait, la maison, l'appartement que j'ai, c'est effectivement un petit appartement de transition. C'est mon cocon, j'adore, etc. Mmh. Mais maintenant, moi, j'ai des ambitions. Je veux que mes enfants, ils voyagent. Mmh. Je veux que mes enfants, ils aient un joli endroit où habiter. Je veux que je puisse leur payer, machin, non. Mmh. Et en fait, là, je vais tout péter pour eux. Et en fait, je sais plus où j'avais entendu ça, que disait que les mamans solo, c'était des lionnes, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu pars à la chasse maintenant, t'as pas le choix de revenir avec la gueule vide. T'as pas le choix de revenir sans rien. Parce qu'en fait, tes enfants, il faut les nourrir. Mmh. Et du coup, je sens que je suis en train de me transformer. Déjà, je l'étais, hein. Mais là, tu vois, c'est le boomerang. C'est que on m'a frappé une fois, deux fois, trois fois. Mais en fait, plus tu me frappes, et plus je les transforme en puissance et F collective. Regardez-moi bien, je prends là. vous n'êtes pas prêts.
Ouais.
Là, je vais y aller.
Carrément.
Et c'est grâce à tout ça.
Ouais.
C'est grâce à tout ça. Et voilà. Et après, il faut que je... mon objectif, c'est d'être heureuse. Et c'est de trouver un équilibre. Parce que je veux passer du temps avec mes enfants. Mmh. Je veux être une maman aussi qui est là pour eux. Mais voilà, quand ils sont chez leur papa, ils sont chez leur papa. Mmh. Tu vois.
Ouais, mais justement, j'allais te poser la question. Comment tu vis ces moments sans enfants?
En fait, là, ça va parce que, comme je t'ai dit, le rythme, c'est deux dodos, deux dodos, trois dodos. Donc, en fait, t'as même pas le temps de dire...
C'est comme s'ils allaient dormir chez un copain ou un truc comme
c'est
ça, tu
rapide.
Vois.
Ouais. Le jour où on passera sur un truc plus simple pour tout le monde, qui est une semaine, où là, ça va pas être pareil.
Ouais.
Ça va être dur.
Mais t'arrives à prendre des temps pour toi quand ils sont pas là?
Bien sûr.
Parce que c'est ça aussi. Enfin, on voit toujours le côté « mes enfants sont pas là », mais c'est aussi une opportunité d'avoir du temps pour toi.
Ah,
pourquoi
moi,
pas
j'ai...
pour travailler plus aussi à ces moments-là, ou pour vraiment prendre du temps pour ton soin à toi?
Les mamans qui sont en train de vous séparer, etc., c'est il n'y a pas que du négatif, effectivement. Moi, en fait, il y avait la Sandra entrepreneur, la Sandra maman, la Sandra...
En quoi?
Bah, pas trop, justement. En fait, c'est même pas Sandra en couple, c'est Sandra femme, en fait. Mmh. Et je pense qu'elle, là, ça fait des années qu'elle est... Je sais pas, bon, elle était partie, mais très, très loin. Très, 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 très loin. Ouais. Donc, elle était... Ouais, la Sandra...
Ouais, toi, en tant que personne.
En fait, en tant que femme.
Ouais, en tant que femme.
En tant que femme. C'est-à-dire, bah ouais, prendre soin de soi. Tu vois, ouais, moi, je crois dur comme fer en l'amour. Mmh. Et encore plus qu'avant. Alors que ça aurait pu me dégoûter, mais je crois tellement dur comme faire en l'amour. Moi, je veux aimer fort, je veux qu'on m'aime fort, et je mérite ça. Mmh. Et je mérite un vrai amour bienveillant, et je vais l'avoir. Mmh. Et parce que je le mérite, et parce que je suis que ça. Moi, je suis que amour avec les gens, de par mon tu vois, collectif, c'est quand même un truc de relation, quoi, d'humaine, avec mes enfants, avec ma famille... tout ça m'a apporté tellement de... En fait, c'est une balance entre puissance et douceur. Mmh. C'est très, très... Je suis devenue très câline, des trucs que je n'étais pas avant, en fait. Mais je me suis révélée, moi, Sandra, femme. Mmh. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, en fait. Maintenant, je me ressens effectivement sur moi. Donc, effectivement, prendre soin de soi, sortir, séduire. Enfin, tu vois, c'est des trucs cons, mais tu t'avais oublié en fait que t'étais une femme, enfin tu vois.
Ouais.
Mais je pense que même c'est tout le monde pareil, même peut-être les hommes c'est la même chose aussi. Mais ouais, on n'est pas que des mamans, on n'est pas que des entrepreneurs, on n'est pas que un membre d'une famille où il faut être là pour les uns les autres, etc. On est aussi une personne à part entière, une femme avec ses envies, ses désirs, ses, enfin tu vois. Et ça, généralement, c'est un peu le piège quand t'es.
Ouais. Quand tu deviens maman, c'est un truc qui passe un peu à la trappe.
Ah bah t'es plus. Mmh. Ouais.
Bah, quand t'as un truc prenant, en tout cas, parce que parfois il y a des gens qui sont juste en couple et qui n'ont pas d'enfants et qui s'oublient aussi, tu vois. Ça dépend vraiment de ta. Ou au travail hein, aussi. Quand t'as quelque chose qui te prend. C'est une question d'équilibre, je crois. Quand t'es pas équilibré, je dis ça, c'est pas péjoratif, hein, mais quand il y a un équilibre qui n'est pas là, bah forcément il y a des trucs qui passent à la trappe, et généralement c'est le soi qui passe
à la trappe.
Le soi
et le couple.
Ouais.
Même si je veux pas en parler, j'ai dit que je voulais pas en parler. Mais faites attention au couple.
Bah bien sûr. Mais parce que c'est C'est les choses qui sont plus faciles à mettre de côté. Parce que les enfants, clairement, tu peux pas les mettre de côté, ils sont là.
Ils passent voilà. Devant tout. Oui.
Ton travail, ben, en fait, si tu le mets de côté, ben, t'as pas de quoi vivre. Enfin, vivre, quand je dis vivre, ben, t'as pas de quoi manger. La lionne, c'était magnifique. Mmh. Alors que les autres choses, c'est presque du bonus. Tu vois, toi, si tu prends pas soin de toi, bah, ça continue. Quand... Mmh. T'as l'impression que ça continue, sauf qu'à un moment, ça pète. Mmh. Mais t'as l'impression que ça continue. Le couple, ça va être la même chose. T'as l'impression que c'est qu'un temps, machin, mais tu peux t'habituer très vite à ce temps. Et en fait, t'as l'impression que bah, on y fera gaffe plus tard quand, quand ce sera problématique. Et en fait, quand c'est problématique, parfois, c'est pas réparable. Et donc, du coup, ben...
Et donc, voilà. Et donc du coup, la leçon à retenir, c'est qu'en fait, c'est soi avant tout le monde. Parce que comme dans un avion... qu'est-ce qu'on dit quand il y a turbulence machin, que t'as les trucs qui les masques d'oxygène qui tombent, on dit tout le temps d'abord c'est toi et après c'est l'enfant. Je viens de faire le geste, du coup ça a coupé le micro. Et c'est la même chose dans la vie et c'est la même chose, moi je dis ça dans l'entrepreneuriat aussi à toutes les femmes, nos clientes, de se dire en fait votre énergie c'est ce qu'il y a de plus précieux, votre santé mentale c'est ce qu'il y a de plus précieux, parce que si vous n'avez pas ça, il n'y a pas, de business en fait, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de projet, l'argent ne rentre pas et vous, enfin c'est impossible,
il n'y a rien du tout,
et du coup même dans la famille c'est la même chose. Tu vois, quand je te dis mon objectif dans la vie maintenant c'est d'être heureuse, parce que je sais tellement que si moi je suis heureuse, mes enfants le seront aussi et leur apporter leur bonheur à eux. En fait, ça sera en ayant une maman qui est bien, qui est à sa place, qui est dans son équilibre, comme tu dis, qui est dans son équilibre. Et ça, c'est juste la douceur. C'est juste, il n'y a rien qui... Tout va bien. Mmh. Tu vois, moi, je vois tellement ça. Moi, quand je vois mes enfants, je vois vraiment, genre, maintenant, de la douceur, de l'amour. Et tout va bien. Tu vois. Et c'est ça. C'est d'abord soi. Et je pense que quand on devient maman, c'est l'erreur qu'on fait. Je pense qu'après, on s'en rend compte au bout d'un moment. Mmh. Mais il faut continuer à se faire passer
en premier.
Mmh.
Alors, c'est pas toujours facile les premières années, les premiers mois, parce que ça dépend des choix que tu fais. Hein. Parfois, c'est compliqué. Mais il faut quand même le garder en tête. Il faut garder, c'est hyper important. C'est hyper important. Puis, l'image de la mère sacrificielle, c'est bon quoi, il y en a marre. C'est pas le cas. Et ça fait pas de nous des mauvaises personnes. Au contraire, en fait, je pense que c'est de l'amour, en fait. C'est juste de l'amour. L'amour, si on arrive à se donner de l'amour à soi, on arrivera à donner de l'amour aux autres. Si on ne commence pas par soi-même, mais c'est valable avec les enfants et dans les histoires d'amour de couple, hein, c'est la même chose. Tu ne peux pas aimer quelqu'un comme il le mérite si toi, tu ne t'aimes pas comme tu le mérites. Parce qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on ne se donne pas à soi-même. Ce n'est pas possible. Il y a un moment, il y aura de la frustration. Et donc, il faut s'aimer beaucoup. Et en fait, parfois, on n'arrive pas à le faire. Et si on n'arrive pas à le faire, il y a des gens qui peuvent nous accompagner et nous aider à le faire. Il y a des thérapeutes, des psychologues, des sexologues, enfin peu importe quelle méthode, mais il y a des gens qui peuvent nous aider à le faire parce que c'est pas inné. En fonction de là où on vient, en fonction de comment on a grandi, on ne sait pas toujours comment s'aimer soi-même. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. C'est hyper important pour soi. Et c'est un investissement en soi. Et quand je dis investissement, je pèse mes mots parce que c'est de l'argent qu'on dépense, mais le retour sur cet investissement est énorme.
Juste parler, en fait. Tu vois, par exemple, que je t'ai dit, là, en début, je t'ai dit, là, je vais parler, c'est la première fois que je parle, je vais m'auto-analyser. Ouais. Parce que tu vois, des fois, en parlant des choses, tu dis, oh, là, pourquoi j'ai pleuré à ce moment-là? Pourquoi là, tu vois, c'est bizarre que je raconte ça de cette façon. Et tu vois, tu comprends, rien qu'en parlant, tu comprends des choses. Moi, je sais que je continue à voir ma psy. Et que des fois, je lui parle, et juste en lui parlant, je dis, ouais, c'est bon, j'ai compris, ça va. Enfin, tu vois, c'est même moi qui m'auto, elle m'a dit, oui.
Mais parce que tu le sors.
Bah oui, tu le sors.
Dis, et en fait,
c'est la façon dont tu le sors, la façon dont ton corps réagit quand tu parles de ça, la façon, c'est...
Et puis tu t'entends pas de la même façon dans ta tête que dans les mots, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Quand ça sort, ça devient plus factuel, plus palpable en fait, que quand ça reste dans ta tête. Et quand ça reste dans ta tête, ça se mélange, ça macère, tu sais, c'est dégueulasse, après ça devient un truc berk. Alors que quand ça sort, bah déjà c'est plus intérieur de toi, donc voilà, et bien tu as la possibilité de le palper et d'en faire quelque chose.
Exactement.
Voilà. Bah écoute, merci Sandra.
Merci à toi.
Merci pour tout, c'était vraiment très très cool. En tout cas, moi, tout ce que je te souhaite, c'est ce bonheur-là, c'est de continuer à faire tout ce que tu fais, à prendre soin de toi parce que tu le mérites en effet. Merci de nous avoir donné tout ça parce que je pense que ça va aider plein de gens, je suis sûre. Et puis, on se revoit peut-être dans 4 ans.
Tout à fait. Tout à fait. Grave, avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café, Frappé, la capsule estivale dans laquelle on retrouve les anciens invités du podcast. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcasts. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcasts sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 15 juin, Aurélie MK écrivait « Ma dose de décrochage dans mon quotidien de maman de 3 kids, tellement bienveillant et éclairant. Merci !» Mais c'est moi qui te remercie Aurélie pour ta fidélité, pour ce temps que tu prends pour toi et pour ton soutien. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode estival. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.